Bonjour à vous et bienvenue à Point Bleu, un balado culturel présenté par Occurrence, Espace d'art et d'essais contemporains. Accompagnés par les artistes de la programmation régulière, nous discutons des considérations, intérêts et questionnements qui orientent leur pratique. Je discute aujourd'hui avec Thibaut Brunet quant à son projet 3600 secondes de lumière, présenté du 31 octobre au 14 décembre 2024 dans la Grande Salle à Occurrence. À l'occasion de cette exposition, son travail est jumelé avec celui de Mathilde Forêt et Mathieu Gagnon, avec qui j'aurai l'occasion de m'entretenir lors d'un prochain épisode. Thibaut Brunet vit et travaille en région parisienne. Diplômé de l'École supérieure des beaux-arts de Nîmes en 2007, il développe depuis une pratique de l'image qui emprunte au code de la tradition photographique et à ceux des technologies nouvelles. La digitalisation du monde réel, notamment des espaces naturels, informe son corpus présenté à Occurrence. 3600 secondes de lumière engage une réflexion poétique sur l'impermanence à partir d'un nuage activé dans un moteur de jeu vidéo. Les nuages animés dans cet espace virtuel se transforment au rythme d'un soleil simulé. Leur forme aux couleurs se conforme au mouvement de la lumière et au passage du temps. Thibaut Brunet collectionne ces phénomènes fugaces en produisant des arrêts sur image, des portraits de ces nuages. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Depuis la fin de tes études, tu es interpellé par les possibilités graphiques ou picturales offertes par les nouvelles technologies. Tu as entre autres travaillé avec Google Earth, des extraits de vidéos YouTube et des scanners d'analyse topographique. Pourquoi ces outils t'attirent et continuent de t'intriguer?
Je sais pas, dans mon travail, il y a une vraie fascination pour la technique et les nouvelles technologies. Ça vient d'une première expérience que j'ai eue quand j'étais aux Beaux-Arts où je me suis mis à utiliser le jeu vidéo GTA, Grand Theft Auto, San Andreas, pour faire des images. J'ai découvert, parmi les missions que j'imagine que tu connais, j'ai découvert qu'on pouvait faire chanter un homme politique en le prenant en photo avec une prostituée. Et donc, parmi les outils qui étaient à la disposition du joueur, il y avait un appareil photo. Entre la batte de baseball et la mitraillette. Et en fait, c'est un outil qui d'un coup m'a fasciné. On pouvait prendre des photos dans le jeu vidéo, et ces photos-là, on les retrouvait sur le disque dur. Ensuite, on pouvait les imprimer, et on pouvait les voir, elles existaient. Ça devenait un vrai travail photographique. Et mon rôle d'artiste, c'est devenu une sorte de jeu de photographe. Je suis sorti de l'action, je suis allé dans les paysages, je me suis mis à faire des photos. Donc là, j'étais encore aux Beaux-Arts quand je faisais ça. Et effectivement, on a une vie virtuelle, une vie numérique qui est très riche. Et des gens disent que c'est pas la vraie vie ou que que la virtualité n'est pas c'est pas le monde réel. En fait, c'est un monde qui est bien réel, il est juste immatériel. Et pour moi, c'est devenu très important et indispensable de le traiter, de le montrer et d'en parler.
Est-ce que tu étais familier avec les machinima à ce moment-là?
Non, mais en 2007, en fait, il y a du machinima, mais c'est vraiment assez. Ça se fait pas. Enfin, c'est pas une pratique aussi forte qu'aujourd'hui avec Twitch ou avec ce qui se passe sur YouTube où il y a plein de monde qui fait plein de choses dans les jeux vidéo qui présentent. Quand je commence ce truc-là, c'est vraiment à la marge. Et puis même, moi, je me demande même si ce que je fais, c'est vraiment de l'art. Au moment où je le fais.
Puis comment c'est reçu par l'école?
Ben, à l'école, il y a des profs qui trouvent que c'est fantastique et puis il y a des profs qui pensent que c'est de la merde. Hein. C'est vraiment... Hein. Et même encore aujourd'hui, parfois, je rencontre des gens qui pensent que c'est de la merde. Et c'est bien, ça me va à peu près. Toujours est-il que, effectivement, notre vie... Enfin, les artistes parlent de leur relation au monde et le monde qui nous entoure... Et fait de ces choses-là. En plus de ça, alors c'est pas moi qui le dis, c'est une critique d'art qui s'appelle Marion Zilio, qui habite Paris, qui parle un petit peu de ça, qui raconte que pendant la Renaissance, on a trouvé la perspective et que ça a changé complètement notre manière de représenter le monde et de le comprendre, de le voir. Et moi, pendant mon adolescence, on a inventé la PlayStation, qui a fait exactement la même chose. C'est-à-dire que ce monde virtuel, ce monde fait de 3D, de polygones, imbriqués les uns dans les autres, qui représente, ça change quand même énormément notre vision du monde. Et pour moi, c'est important d'en parler, d'y participer, de jouer avec, de le détourner.
Est-ce que pour toi, c'est une vie parallèle ou plutôt une extension du quotidien?
Bonne question. Je dirais que c'est plutôt une extension. Bon, en même temps, j'ai pas trop réfléchi avant de répondre, donc je peux me tromper, mais je dirais que c'est plutôt une extension. C'est un... Oui, Oui, une extension. Comme le téléphone, en fait. Enfin, c'est, mm-hmm. c'est... Oui.
Puis les jeux vidéo, ils deviennent une matière première pour toi parce que tu y joues, puis là, tout d'un coup, tu te dis « Ah, mais pourquoi est-ce que j'intégrais pas cette pratique-là? » Parce que oui, l'appareil photo dans GTA, mais il y a quand même un lien qui se fait entre « Ah, oh, j'ai la possibilité de prendre des photos », puis « Ah, oh, ça va devenir un projet artistique en soi. »
Mais en fait, c'est... l'univers des jeux vidéo est tellement riche qu'en fait, il y a plein de choses à faire. Et d'ailleurs, ça se voit, moi, des fois, je rencontre des étudiants qui ont tous des idées incroyables qu'ils font avec, j'en sais rien, Call of Duty, ou je sais pas quel jeu d'ailleurs, parce que je suis devenu ringard aussi, je connais pas les trucs qui se font aujourd'hui. Enfin, moins qu'eux, en tout cas. Comment dire ? Pendant le Covid, je me suis acheté une Nintendo, une Switch, voilà. Et j'ai acheté Minecraft. Et je sais pas, c'est un jeu qui m'a toujours attiré, mais j'avais pas vraiment de... Je trouvais que c'est un jeu qui m'avait l'air difficile. Donc je savais pas, j'y allais pas. Alors, j'ai 40 ans, donc d'un coup, je trouvais que c'était bien trop compliqué pour moi. Mais là, pendant le Covid, on avait tout le temps de découvrir des nouvelles passions. En l'occurrence, moi, j'ai découvert celle-ci, je me suis mis à jouer à Minecraft, et ce jeu m'a complètement passionné. C'est devenu un espace d'expérimentation, à la fois architectural, parce que je pouvais fabriquer des trucs, de découvertes scientifiques, parce que je me baladais dans des endroits inconnus. C'est devenu vraiment... Je me suis mis à explorer ce monde-là avec cet appétit de la découverte, du mystère. Je trouvais que c'était génial. Et j'ai commencé à écrire un projet qui a très bien marché, puisque j'ai commencé à vouloir lancer une mission d'exploration scientifique à l'intérieur de ce jeu vidéo-là.
Okay.
J'ai contacté des laboratoires scientifiques très connus, en France en tout cas, comme le CNRS, l'INRAE, l'IGN, tous ces trucs-là. Et en fait, ils ont cliqué, ils ont vraiment adoré le projet, et on a vraiment monté une mission d'exploration dans le jeu vidéo. Et donc, il y avait pour chaque... On le faisait en direct sur Twitch. Et toutes les semaines, on explorait un bout, on faisait de la botanique avec un spécialiste de la botanique. Et à chaque fois, il y avait une autrice, une dessinatrice, un photographe, des sherpas qui nous guidaient, et moi. Et on parlait avec le scientifique de la méthode scientifique et on découvrait ce monde-là. Et le projet allait très très loin, parce qu'on a fait ça pendant 2 ans. En fait, à la fin, on se pose un peu la question de savoir si c'est vraiment un projet artistique ou pas. C'est-à-dire que c'était des performances artistiques, mais c'était sur Twitch. Il n'y a pas vraiment de public pour ce type de contenu.
Il y a la science impliquée, ouais.
C'est très ambigu. Et pourtant, c'était ce que c'était. Puis à la fin, on en a fait une exposition au Centre Pompidou. Donc ça, le projet a quand même bien marché. Les gens ont trouvé de l'intérêt à ça. Mais c'est un peu le défaut de la qualité de mon travail, c'est-à-dire que effectivement parfois on peut se demander un petit peu si
mais est-ce que c'est des questions qui parfois te rendent inconfortable, ou en même temps ça fait partie de la démarche de se dire à quel moment est-ce que l'or est l'or?
Non, c'est cool, au contraire, l'ambiguïté, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu ce que j'ai présenté ici, là, l'ambiguïté, elle est centrale dans mon travail, les objets sont pas vraiment ce qu'ils sont, les sculptures qu'il y a au milieu, en fait, ça, on dirait des sculptures, c'est très très minéral, on dirait que c'est de la pierre, en fait, il s'agit de livres, c'est des bouquins. C'est des bouquins avec à l'intérieur des images très très étranges, c'est des scans 3D. Au mur, il y a des nuages qui sortent d'un catalogue de nuages que j'ai acheté, qui m'a coûté $15, et ensuite j'ai mis tous ces nuages dans un jeu vidéo que j'ai fabriqué moi-même, puis j'ai attendu que le temps passe pour prendre en photo ces nuages-là, et finalement, c'est un travail qui est très pictural, qui est vraiment dans la séduction même, j'utilise un peu une icône de l'art, le nuage, la fumée, la brume, enfin quelque chose de très...
La transparence, difficile à représenter.
Voilà, ouais, puis un peu affecté, très maniéré, quoi, voilà. Et c'est fait exprès, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose d'ambigu, qui ressemble à du dessin, qui ressemble à de la peinture, qui n'est pas vraiment de la photo, et pourtant c'est un peu tout ça. Moi j'aime assez que les choses ne soient pas tout à fait ce qu'elles ont l'air d'être, ça m'amuse un peu.
Puis, dans un sens, les nouvelles technologies nous offrent la possibilité de réinventer le réel puis s'affranchir de phénomènes physiques, genre la gravité. Là, on n'est pas obligé de dépendre de ça dans un jeu vidéo. Mais pourtant, j'ai l'impression que la plupart de ces outils techno, ils tentent d'imiter le réel avec la plus grande exactitude possible. Comme, selon toi, cette insistance à vouloir calquer le réel, ça provient d'où? Qu'est-ce que ça dit de nous au niveau culturel, mais social aussi?
Ben, la gravité, c'est quand même vachement utile. Hein,
Oui, c'est sûr.
Non, mais les règles physiques, c'est pas de moi non plus, hein, mais là, par contre, j'ai pas la source. C'est un petit peu dans la contrainte aussi qu'on s'épanouit. Donc, c'est parce qu'il y a des contraintes, c'est parce que quand on saute d'une falaise, qu'on tombe et qu'on meurt, que finalement on fait attention à comment escalader la falaise et fabriquer des choses. Et puis, donc la contrainte me paraît être une bonne chose. Et puis après, est-ce que vraiment on peut en vouloir aux gens de manquer d'imagination aussi j'ai pas d'avis sur les créateurs de jeux vidéo et sur mais je me dis en fait. Déjà, je trouve qu'ils font un boulot tellement formidable.
Ouais,
déjà,
ouais, c'est clair.
Non, j'ai pas trop d'avis là-dessus.
Mais est-ce que ça, peut-être, ça fait un lien avec ce que tu disais tantôt par rapport au fait que les jeux vidéo deviennent une extension de notre vie, fait que c'est pour ça qu'on veut peut-être produire une réalité alternative par le jeu vidéo. Puis ça te permet aussi de porter un regard alternatif sur le milieu de l'art aussi en produisant des œuvres qui sont virtuelles.
Oui, tout à fait ambiguë. Bah, disons que, en tout cas, c'est drôle de pouvoir rejouer les questions physiques de physique dans le jeu vidéo. Par exemple, là, dans le boulot que je présente ici, avec les nuages, 3600 secondes de lumière, en fait, le jeu vidéo que j'ai fait, c'est très simple. J'ai fait vraiment le niveau zéro de ce qui est possible de faire. C'est là, vraiment. Il y a des nuages dans le ciel et le temps passe. C'est tout ce qui se passe dans le monde.
Quand même.
Et le sol, c'est une grande surface grise. Donc vraiment, il ne se passe absolument rien dans ce jeu. Il y a juste un truc, moi, qui me fascine et qui me fascine depuis très longtemps dans les jeux vidéo. C'est que 24 heures passent en 24 minutes.
C'est vrai.
Et t'as ce petit monde dans sa petite boîte, voilà. Et moi, j'adore ça. Et aussi, il y a un autre truc, c'est que le temps que, dans le jeu vidéo, tant qu'on n'a pas avancé dans l'action, on rejoue tous les jours le même jour.
C'est vrai.
Comme le film avec Bill Murray, où c'est tous les jours le jour de la marmotte, j'ai oublié. Le jour sans fin, non, c'est pas... Non,
Au Québec, le titre est différent, mais je pourrais pas dire. Le jour de la marmotte,
Le jour de la marmotte, voilà, appelons, je sais plus, mais ce film où tous les jours se rejouent le même jour, c'est un peu la même chose. Sauf que là, ça se joue en 24 minutes. Et moi, quand j'étais gamin au lycée, on m'avait fait lire L'œuvre de Zola, qui est un livre qui m'a fasciné parce que...
C'est quand même une lecture ardue pour...
C'est dans le programme lycée.
Ok.
Vraiment, c'est le truc... c'est dans le programme, vraiment, parce que sinon, moi, je lis... Enfin, jamais je l'aurais ouvert, ce bouquin, si on m'y avait...
Mais tant mieux, dans un
sens. On m'y avait pas forcé. Hein. Mais toujours est-il que il y a... Je sais pas si t'as lu le livre, mais il y a eu... Il revient toujours sur ce pont et il passe son temps à peindre je sais plus quel fleuve, je crois que c'est la Seine. Il y retourne. Et à chaque fois, c'est pas la même lumière. Et à chaque fois, il arrive pas à retrouver le premier truc qu'il avait trouvé. Et finalement, on se rend compte que ce qui était intéressant depuis le début, c'était le chemin. C'était pas qu'il arrive à trouver ça à sa couleur, c'était qu'il en fasse plein. Et quand je me balade dans mes jeux vidéo que j'ai fait ou que j'utilise, j'aime beaucoup cette idée que je peux rester et que je peux attendre mon instant décisif et puis que le lendemain, le jour d'après, donc 24 minutes plus tard, je peux le retrouver encore. Et que, voilà, je trouve ça raconte un peu la même chose, en fait. Mais dans sa boule à neige, quoi. Moi, j'utilise un monde qui tient dans une boule à neige. Alors que dans l'œuvre de Zola, il utilise le monde.
Mais ça doit devenir compliqué pour toi, parce que plus les jeux vidéo, ils deviennent précis ou ils s'améliorent, les nouvelles générations, les jours sont de moins en moins pareils. C'est cette idée du 24 minutes test, mais là, tu vas avoir de la misère.
Ouais, mais de toute façon, moi, je suis devenu un boomer. Je sais plus, j'utilise plus ces machins-là. Je fabrique, je me balade avec mon scanner 3D. Et puis c'est bien aussi que d'autres s'emparent des sujets. Moi, je fais mon boulot, mais évidemment, je vieillis et ma manière de travailler change. Et c'est vrai que maintenant, je suis beaucoup plus... je suis dans des prises de vue, justement, où j'utilise des scanners 3D, où je vais dans le paysage et où j'essaie d'enregistrer. Je fais un truc depuis 2016 où j'enregistre tout le littoral français. En 3D, puis ensuite j'en tire des images, j'en fais des vidéos, je fais plein de choses comme
Mais
ça.
Mais le fait de... de modéliser ces espaces-là, comment ça transforme ta vision de ceux-ci? Puis c'est quoi les détails ou les anomalies qui émergent dans le processus de documentation puis qui vont capter ton attention?
Ben, c'est presque le seul truc qui m'intéresse, c'est justement les anomalies. Finalement, moi, je porte un regard sur le monde qui m'entoure. C'est un travail... c'est presque un travail de peintre. Je suis pas... Mais c'est surtout un regard sur le regard de la machine. J'utilise un scanner 3D qui voit le monde comme un idiot scanner 3D.
Un ordinateur.
Comme un ordinateur qui ne comprend pas ce qu'il voit. Et par exemple, un scanner 3D, effectivement, si... j'en sais rien. Moi, mon cerveau fait le travail de comprendre. Par exemple, là, entre toi et moi, je mets ma main. Je vois pas ton visage en entier, mais en fait, mon cerveau comprend que dans les interstices, il y a ton visage quand même. Et l'ordinateur, le scanner 3D, il voit pas ça. Lui, il présente un monde, justement. Il ne présente uniquement ce qu'il arrive à mesurer. Ce qui est hyper fascinant.
Ouais.
Et donc, du coup, ça présente un monde qui est complètement imparfait.
Mm.
Et qui est détruit, qui est presque dystopique, quoi. Voilà.
Fait que c'est un peu comme lorsque la photographie est arrivée, au début c'était un outil qui était perçu seulement avec une visée scientifique ou plutôt technologique, puis au fil du temps les artistes se le sont appropriés pour voir comment on pouvait traduire une vision du monde à travers ça. Pour toi c'est la même chose avec ça?
Oui, complètement, et c'est même d'ailleurs pour ça que je me retrouve quand je dis j'enregistre le littoral français, c'est pas pour rien, c'est parce que je rejoue les enjeux des origines de la photographie. C'est-à-dire je joue la mission Datar, qui est une mission célèbre en France, mais la FSE pour les États-Unis. Il y en a d'autres. Zut. Ah, quel idiot. Pardon. Mais disons que je rejoue les enjeux des grandes missions photographiques avec ce matériel-là. Et voilà. Tout en étant certain, en plus je suis un peu un loser aussi dans ma manière de faire, parce que je me dis je vais être hyper exhaustif, donc la machine elle enregistre 300 mètres. Donc moi j'ai commencé sur la frontière belge, puis je me suis mis à enregistrer tous les 300 mètres. Puis au bout d'une journée de travail, j'avais fait 4 kilomètres, même pas. J'ai fait, en fait ça n'arrivera jamais, je vais arrêter ça tout de suite, et puis au contraire je vais faire des sauts de puce et je vais enregistrer... Et puis le travail, vu que en fait c'est un matériel qu'on me prête tous les ans, une dizaine de jours. Donc en fait, je continue le voyage là où je l'ai laissé l'année d'avant.
Puis le territoire s'est déjà transformé.
C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'enregistre les falaises, que je mets dans les livres, parce que c'est comme une sauvegarde aussi d'un territoire qui n'existe déjà plus. Mais oui. Rejouer les enjeux de la photographie, c'est hyper important pour moi.
Est-ce que c'est une manière aussi de faire de l'exploration de terrain, c'est-à-dire d'ancrer ces outils-là qui sont plus techno dans quelque chose de tangible, puis de peut-être d'amener l'atelier ailleurs que juste devant son ordinateur?
Complètement. C'est... oui. Non, complètement. Effectivement, j'arrivais aussi à un moment où je faisais peut-être un petit peu le tour de ce que je pouvais faire en post-production, en fait. Ouais. Voilà. Et aussi, j'avais pas forcément d'intérêt pour ce qui se passait dans l'intelligence artificielle, que j'adore, plein d'artistes qui l'utilisent. Mais je vois pas du sel pour moi. Et du coup, je me suis mis à travailler comme ça, et ça m'a vraiment intéressé. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais c'est vrai qu'il y a... En fait, j'aimais bien l'idée de sortir, puis avec beaucoup de technologies sur le dos, d'être dans comme une super production, que ce soit un peu comme un petit bousier qui pousse sa boule comme ça devant lui, que ce soit tout soit très compliqué. Je trouvais que c'était...
Année après année.
Ouais, année après année. Puis il y avait une idée que je me faisais de l'art à ce moment-là. C'est-à-dire, je me disais, tiens, ce serait bien... Peut-être un super artiste, parce que à l'époque j'avais encore des envies d'être un super artiste. Je me disais, peut-être un super artiste, il fait des projets qui
des
sont
gros projets.
Infinis, ouais. C'est des projets qui n'arrivera jamais à terminer. Je pensais à Opalka qui faisait ses monochromes de numéros. Je disais, voilà, ça c'est un artiste. Et donc peut-être j'étais dans ce romantisme-là.
Est-ce que ça suscite des questions aussi, parce que les gens doivent te voir avec ton matériel?
Alors, ça suscitait des questions, parce qu'à l'époque, c'était un matériel de fou. Ça coûtait 150 000 euros, machin, c'était... Voilà. Puis aujourd'hui, ça coûte plus que 10 000 euros, et puis c'est gros comme ça.
Ouais. C'est absolument ridicule. Ça évolue vite, dans le fond.
Ouais, donc ça suscitait beaucoup de... Parfois, des inquiétudes aussi, parce que souvent, quand quelqu'un se balade comme ça avec un scanner 3D, c'est pour construire une autoroute ou faire tomber un immeuble. Donc du coup, les gens venaient me voir un petit peu angoissés. Mais on a eu des petites rencontres sympathiques, mais enfin rien d'extrême.
Puis comme je le mentionnais, dans le fond, tu vis et tu travailles en banlieue parisienne. Et est-ce que le fait de faire voyager ta pratique, ça te motive à comme capter les variations d'un endroit à un autre? Est-ce que ça rentre en jeu comme la fugacité de nos différentiels? Par exemple, je sais que nous, tu sais, on dit, le Québec, on est environ la même hauteur que Paris, on a un peu les mêmes lumières. C'est plus ou moins vrai, mais est-ce que ce rapport à la lumière peut-être va influencer ton idée des nuages aussi que tu mets dans ton jeu vidéo?
Ben, c'est une bonne question, je crois pas. Je me pose pas la question. Parce qu'en même temps, je suis pas un vrai photographe. C'est-à-dire que j'utilise des outils de photographie, j'imprime comme si c'était de la photographie. Mais je suis pas photographe, moi je suis artiste qui a fait une petite école de beaux-arts où j'étais pas vraiment spécialisé en photographie, donc en tout cas quand j'ai commencé, je me posais pas ces questions-là de la lumière d'un lieu, et d'ailleurs je me les pose toujours pas, mais par contre j'ai des copains photographes, et même ma femme qui est photographe aussi, qui peut me dire ce genre de choses, mais moi effectivement
C'est peut-être des considérations plus classiques de...
Non, mais plus qui sont techniquement bonnes. Mm-hmm. Et moi, vu que je suis toujours entre deux technologies et que, en fait, finalement, j'ai pas eu une vraie formation de photographe qui pourrait... Où justement, je pourrais mesurer la lumière, savoir... D'ailleurs, je me fais aider souvent quand je suis sur des projets où justement il faut être un peu sérieux. J'ai un assistant qui s'appelle Jules, que j'embrasse si jamais il écoute ça. Qui justement sait faire, qui sait mesurer les choses et qui... Parce que moi, je suis évidemment pas très bon pour ça.
Puis à travers les projets que tu nous as décrits un peu, il y a souvent d'autres personnes impliquées. Est-ce que c'est important pour toi qu'il y ait une équipe avec toi ou peut-être ça motive les projets?
Eh ben oui. Alors ça, c'est quelque chose... Moi, j'avais pas remarqué qu'il y avait toujours plein de monde. On me l'a fait remarquer. On m'a dit « Oh, Thibaut, il y a toujours des gens impliqués. » Alors. Pourquoi je me pose la question. En fait, vu que c'est des projets qui sont un peu compliqués, où on fabrique des petits jeux vidéo, où on est là, on doit aller dans des endroits un peu compliqués, porter du matériel. Ouais, on est toujours du monde. Oui. Mais je sais pas, je suis pas vraiment exprès, mais on n'a pas le choix sur des projets comme ça. Quand on fait des petits jeux vidéo, ou même, on n'en fait plus trop, mais quand on fait des projets en réalité virtuelle... En fait, on est tout de suite du monde, quoi. Pareil, ouais. Là, je te racontais les missions d'exploration scientifique. On était tellement...
Ouais.
C'était fou, même. Des fois, on a, avec un scientifique qui s'appelait Antoine Berru, que j'ai adoré, on étudiait les mouvements du poulet dans Minecraft. C'était absolument passionnant. Faut vouloir. C'est niche, hein, mais c'est...
Mais quand même.
c'était vraiment passionnant. Et à un moment, on était vraiment... littéralement 6 personnes autour d'un poulet en train de regarder le poulet en se disant bon bah là il va à droite, il va à gauche, et oui, des fois on est beaucoup, quoi. C'est rigolo,
mais il y a l'idée qu'il faut se prêter au jeu.
Ouais, tout à fait. Oui puis se prendre un peu sérieusement.
Ouais,
c'est à dire que on joue, mais en même temps on rejoue des... puis c'est moi le chef en plus, bon, c'est important, c'est important qu'on joue tous ensemble et que ce soit moi qui commande. Mais oui il y a ça.
Puis avant qu'on se laisse, je veux mentionner un autre projet que tu tiens, qui est un autre projet collaboratif, c'est-à-dire ton balado, ton podcast, qui s'intitule Sans Titre.
Ça s'appelle Sans Titre. C'est un projet que j'aime beaucoup. En fait, ça vient de quelque chose... Quand on est en festival, quand on est à l'étranger avec d'autres artistes, enfin, qu'on rencontre d'autres artistes, en fait, on ne se parle jamais du sens profond de notre œuvre hyper importante. Pas du tout ça, les questions qu'on se dit. C'est, on se demande comment on fait pour vivre, parce qu'en fait, quand on parle des artistes, souvent, en fait, on a une idée de ce que c'est. On fétichise beaucoup les artistes. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on parle aussi à des gens qui sont très, très précaires, qui sont souvent sous le seuil de pauvreté,
ouais.
Très largement. Et qu'en fait, souvent, c'est quand même des gens qui crèvent la dalle, qui font le boulot juste parce qu'ils y croient, parce que c'est hyper important pour eux, mais voilà, et qui mènent leur carrière comme ils peuvent, et puis c'est difficile. Et donc, c'est de ça que s'entitraîner. Donc, l'idée, c'est vraiment pas de parler du sens secret des œuvres, mais bien de parler de ce que c'est que la vie d'artiste, sortir de la fétichisation et raconter vraiment ce que c'est que ce monde-là. Et donc, on a plein d'artistes, des fois des artistes très très connus. On a battu tous les records d'audience avec Pénélope Bagieux.
J'ai vu ça.
Et puis, des fois, des artistes plus modestes, voilà. Et puis ils racontent des artistes jeunes, des artistes vieux, et puis ils racontent un petit peu leur comment ils ont fait, comment ils font pas d'ailleurs souvent,
ouais.
Parce que c'est des métiers très difficiles. Voilà.
Fait que finalement Pénélope Bagieux partage les mêmes enjeux que nous.
Ben, Pénélope Bagieux, alors oui, alors non, pas vraiment, parce que non, Pénélope Bagieux, enfin, disons qu'elle partage les mêmes doutes et les mêmes craintes, mais quand même ça, elle est plus à l'aise. Oui, elle est quand même, disons qu'elle a, elle a quand même une, c'est ça aussi qui sort, c'est que souvent, en fait, d'avoir une audience sur Instagram, d'être suivie, d'avoir eu ses blogs, machin, en fait, ça fait que ça peut très bien se passer pour vendre des livres. Et Pénélope Bagieux, elle jouit quand même d'une vraie notoriété qui fait la différence.
Mais je te souhaite de devenir le super artiste international. Mais t'es déjà un super artiste.
Ah, je te remercie.
D'avoir cette carrière que tu fantasmais peut-être.
Mais peut-être c'est pas si souhaitable que ça finalement.
Ouais, peut-être que non.
Je suis papa finalement. Peut-être c'est bien que je reste un peu à la maison aussi.
Ouais.
Non, mais disons qu'en tout cas, quand je te parlais tout à l'heure des ambitions du travail, effectivement, c'était un moment où aussi j'étais plus jeune et ça rentrait aussi avec l'idée que j'avais de l'art et de comment une carrière devait être menée. Peut-être qu'aujourd'hui, si je lançais un gros projet, je le ferais différemment et je serais peut-être moins... je verrais peut-être les choses moins grandes.
Voilà. Influencé par ces récits-là aussi, entre
autres. Oui, et influencé par ces récits qui sont vraiment... Enfin, c'est exemplaire, parce que... Enfin, on a fait Pénélope Bagieux, mais on a aussi fait des gens comme Edmond Baudouin, qui ont 82 ans, et 70 BD à leur actif. Enfin, il n'y a pas que des auteurs de BD, il y a des plasticiens, plein de choses. Mais oui, il faut écouter, sans titre.
Mais oui. Fait. Merci beaucoup, Thibaut.
Merci beaucoup.
Point bleu, c'est au texte, à l'animation et à la réalisation, Mathilde Varanès, au montage, Gabriel Armois-Blouin, à la conception graphique, Marion Paquette, à l'arrangement musical, Fanny Jane. Point bleu est une production d'Occurrence sous la supervision de Lily Michaud.